L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Donc Olivier, on va parler d'arbres avec toi, un nom d'arbre pour parler d'arbres et pour parler d'Arboretum, le projet sur lequel tu es investi aujourd'hui à Pau. Alors on est devant l'Arboretum, c'est quoi ?
Alors l'Arboretum, c'est communément ce qu'on appelle une micro-forêt. Sauf que le mot forêt, on revient dessus, ça serait plutôt un bosquet. Parce que la forêt, elle n'existera pas. Ce qu'on plante aujourd'hui va se transformer, va accueillir une biodiversité, va se sélectionner toute seule et évoluer en fait. Donc ça ressemble à une forêt parce qu'on a planté plein d'arbres, mais on verra ce que ça deviendra. Je vais peut-être t'étonner, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de la forêt, je ne suis pas gros forestier, je suis juste passionné, mais à la base je suis designer, je suis graphiste. Et l'idée de composer avec des arbres, c'est comme dans mon métier de designer en fait, c'est d'amener des solutions par la forme, par l'image, dans mon travail de tous les jours. Et je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait composer avec le vivant de la même manière que je pouvais composer avec une palette de couleurs. Donc je ne vais pas te parler de termes compliqués, je pourrais, parce qu'à force de travailler dessus, effectivement, c'est les informations entrent, je commence à les digérer. Mais je ne vais pas utiliser de noms latins pour parler des arbres, même si ça fait très professionnel. Je préfère utiliser des termes plus vulgarisés. Donc les noms classiques sont par exemple plus faciles pour communiquer.
Alors du coup, si on part sur le terme qui est annoncé quand même publiquement, oui. La micro-forêt. Micro-forêt, ça veut dire qu'elle est petite ou il y a autre chose derrière ?
Rentrons dans le concept de la micro-forêt. En fait, le terme micro-forêt, c'est un terme qui devient commun à tous les gens qui font ce type de plantation. À la base, il y a une technique. La technique, c'est un japonais qui l'a développée en observant les forêts primaires, primitives. Il s'est rendu compte qu'il y avait une forte densité de plantes, d'arbres qui tombaient et qui poussaient au même endroit, avec des systèmes racinaires qui se mélangent, qui s'entretiennent, qui se solidarisent et qui développent un sol plus propre. Il détoxifie le sol, en fait. Donc il a adapté très rapidement ses observations à la dépollution de sol industriel. Donc ces micro-forêts sont une densité d'arbres assez importante. On plante quasiment 3 arbres par mètre carré. Et l'idée, c'est de propulser la pousse de ce bosquet. Donc on est dans un système pour dépolluer les sols à la base, enfin c'est le concept d'origine, et ensuite ça a été adapté pour faire de la plantation en milieu urbain, essentiellement ou périurbain, pour toutes les fonctions que peuvent amener l'arbre en fait. On peut parler donc de dépollution du sol, mais on peut parler de dépollution de l'air, de purification de l'eau, d'amélioration des sols. Si on les détoxifie, c'est-à-dire qu'on va redévelopper une microbiologie, enfin les racines vont s'en charger. Il y a des connexions entre les champignons, enfin c'est assez complexe, mais toute cette vie se remet en place avec les arbres. Dans notre concept, on accentue sur 2 points clés qui pour nous sont vraiment essentiels. C'est la création de refuges pour la biodiversité et bien sûr la captation carbone. La captation carbone, parce que finalement, quand on voit tous les plans de séquestration carbone, c'est notre terme qu'on utilise, la plupart du temps, c'est adapté à des hectares entiers de forêt. Et on s'est rendu compte que finalement, ce concept de décarboner pouvait être amené à des tout petites surfaces. Donc on chasse les petites surfaces, et à chaque fois qu'on plante une micro-forêt, en tout cas, c'est ce qu'on veut faire avec Arboretum, c'est décarboner, détoxifier, créer des refuges pour la biodiversité, créer des îlots de chaleur, de fraîcheur, pardon, ça peut être aussi le cas, et bien sûr transmettre. Donc dans le milieu urbain, ce qui nous intéresse, c'est aussi le côté participatif. On est proche des gens, donc on peut leur montrer à quoi sert un arbre, on peut leur montrer que quelque part aussi l'arbre n'a pas vraiment besoin de nous, mais nous on a vraiment besoin d'eux. Et en plantant, on discute, on échange, et ça crée du lien, tout simplement, autour d'une plantation, autour du vivant. C'est l'objectif principal.
Donc comment s'est passée cette plantation participative? Ça fait vraiment partie du coup de cette méthode de Miyawaki, donc ce japonais dont tu parles, d'impliquer les populations sur la microforêt urbaine. Comment ça s'est passé la mobilisation des habitants ici à Pau? Alors ici on est quand même sur une grosse ville, quoi, une préfecture, on n'est pas forcément, c'est pas forcément le centre-ville, mais quand même quoi.
Alors à la base, le concept de Miyawaki, lui, effectivement, il suggère que ce soit festif. Donc on adhère complètement à cette idée-là. Maintenant, faire participer les gens, c'est pas forcément évident. Donc, dans l'idée, je vais revenir un petit peu plus en arrière, parce qu'il y a une association qui s'appelle Lichen, quand même, derrière, qui gère ce projet Arboretum. Et Lichen est né de l'idée d'essayer de créer du lien, d'étudier le lien, voir comment fonctionnaient les liens. Toutes les associations font du lien, beaucoup de gens font du lien, mais sans vraiment s'intéresser au concept même, en fait. Et on a cherché longtemps à faire en sorte que les structures environnementales, par exemple, se connectent réellement entre elles, arrivent à créer des projets en commun, arrivent à faire de l'économie d'échelle. C'était pas forcément évident, il y a toujours une petite concurrence qui existe, hein, et on a abandonné petit à petit l'idée de fédérer. Parce qu'il nous manquait un projet concret, en fait. Deux choses ont émergé. L'art. Donc on a une activité qui est axée sur le street art, sur l'art, où en fait on pose des sujets de type environnemental ou social. On discute avec des étudiants par exemple et on va co-créer une fresque qu'on va réaliser, on va aller jusqu'au bout. Ça on sait que ça crée du lien. À partir du moment où on était dans l'action, où on commençait à peindre, les gens oublient leur strate sociale, oublient leur discipline d'études et commencent à communiquer autour de la pratique de l'art. Et finalement, l'arbre est arrivé naturellement sur le même concept. On s'est dit, là, on a un être vivant qui favorise la vie. Et en plantant, on va obtenir le même résultat que quand on peint, en fait. Donc, il y a une espèce de jonction autour de la tentative de créer du lien. Après, comment on crée du lien, comment on amène les gens à venir participer, là, c'est toute une autre histoire. Bien sûr, on va utiliser les réseaux sociaux. Étant donné que à la base, je suis graphiste, j'utilise l'image pour essayer d'intéresser les gens, pour créer des chocs visuels, on va dire. Il y a du teaser, enfin, je ne vais peut-être pas rentrer dans ce genre de détails-là, mais il y a tout un tas de petites techniques pour petit à petit amener le sujet sans qu'il soit trop rébarbatif, sans qu'il soit trop technique, justement, en le vulgarisant et en amenant à comprendre l'intérêt en fait, de participer à ce genre de projet. Et les gens sont venus. Et là, c'était génial. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, toujours avec la petite pression, la petite boule au ventre, se demander s'il y aurait vraiment du monde. Et en fait, ça a été génial. C'était super. Parce que c'était intergénérationnel, des enfants, des seniors, des adultes, enfin bon, bref, il y avait tout le monde. Il y avait une centaine de personnes quand même, ce qui n'était pas négligeable, surtout pour planter. Il faut faire attention. Il fallait réussir à trouver une façon de gérer les gens. Donc on leur donnait des conseils, on leur indiquait comment on plantait, ce qu'il fallait faire, l'attention qu'il fallait porter à ces plantes qui sont très très jeunes, ça c'est un autre concept, on les plante très petits. Et en fait, c'est une fois qu'ils avaient entendu les premières consignes, on n'a pas du tout eu à gérer. On s'est retrouvé avec des gens bienveillants, qui avaient volonté de participer à cette action, qui ont fait attention. Les enfants arrosés, les grands creusés, les arbres circulés. Il y a une espèce d'organisation géniale qui s'est mise en place et ça, c'est ce qu'on adore voir. On aime arriver à prouver par ce type d'action que les gens sont complètement autonomes dans leur façon de, dans l'organisation de ce type d'événement et beaucoup d'autres choses certainement. En fait, je crois qu'on a tous un lien aux arbres. Mais j'en suis persuadé. Je pense que les arbres sont là depuis très longtemps. Et ont une temporalité totalement différente. Et en fait, j'ai du respect pour les arbres. Ça va au-delà de la passion pour ces arbres, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils peuvent faire. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je rentre dans ce projet Arboretum, en fait, les arbres, je les voyais comme des compagnons de vie. Impossible de me passer d'un arbre. Je ne peux pas être sur un terrain plat sans arbre. Comme ici, on est dans un pays qui est relativement en relief. Mais quand je voyage, quand je me retrouve dans des zones plates, il me manque quelque chose, en fait. Et l'arbre, en fait, j'ai besoin d'être à côté des arbres constamment. Je me ressource plutôt en forêt, mais c'est mon milieu naturel en fait. C'est là où je me sens le mieux. Mais j'étais jamais rentré réellement dans l'arbre jusqu'à ce que ce projet apparaisse. C'était mes amis. Et aujourd'hui, c'est, je ne vais pas dire que c'est une forme de vénération, mais pas loin. On a tous à gagner et à comprendre ce qu'ils peuvent faire pour nous et ce qu'ils font depuis la nuit des temps.
Alors justement, j'ai trouvé ça assez intéressant quand on va sur votre très belle page web Arboretum. Alors ça s'écrit 2 O et M à la fin, voilà. En fait, il y a un petit passage où tu poses la question, vous posez la question de mais qui est l'arbre ? Pas qui qu'est-ce que c'est ? C'est en fait lui donner vraiment une essence comme un être à part entière.
Oui, il n'y a pas de raison en fait que ce soit un objet. C'est une problématique qu'on a avec l'arbre en ville, c'est qu'il est souvent considéré comme un ornement, comme une décoration et implanté comme tel, avec une séparation, avec des normes. Et en fait, non, ils ont une place, ils ont une intelligence différente. On a tendance à tout anthropomorphiser. On ramène tout à nous en fait. Or, ce sont des formes d'intelligence complètement différentes. On ne peut pas considérer qu'un arbre planté en ville est un arbre qui a été respecté. En fait, il a besoin de communauté végétale, il a besoin d'une terre saine, il a besoin d'espace autour de lui. Donc on est dans un concept où l'arbre est respecté pour ce qu'il est et non pas forcément que pour ce qu'il peut faire. Ça, c'est important. Le qui il est accompagne une autre question. On dit l'arbre, le arbre, en fait pourquoi pas elle, pourquoi on ne parle pas d'une arbre, en fait on parle rarement d'une arbre, en fait on peut aussi, ils sont sexués, mais il y a une façon en fait d'aborder ces êtres vivants de telle manière à ce que l'humain ait un contrôle dessus et donc le considère comme un objet maîtrisable, contrôlable. En fait il faut sortir de cette logique et en plantant ces arbres là on essaie d'amener ce principe un peu plus sensible. Puis c'est puissant, c'est vraiment puissant, on ne se rend pas compte, parce que là on parle beaucoup de l'arbre, mais on devrait parler énormément du sol, beaucoup plus du sol en fait. Le sol est encore quelque chose d'encore plus magique potentiellement, sauf qu'il se combine parfaitement avec l'arbre. Quand on parle de générer la vie grâce à l'arbre, alors effectivement il abrite. Alors là, il y a des termes un peu techniques comme les dendromicro-habitats, c'est tout ce qui est petites fissures, les trous, les cicatrices, les fractures de l'arbre, l'écorce, va abriter des espèces, qu'elles soient animales, végétales, les insectes. Plus j'en aime pas trop les insectes, mais ils sont importants parce qu'ils vont amener de la matière jusqu'au sol, ils vont se nourrir de cette matière. D'autres insectes au sol vont se développer, vont venir chercher cette matière, vont créer de la nourriture pour l'arbre. Les champignons vont se connecter à l'arbre. Là, on en parle de plus en plus d'ailleurs de cette connexion, ça s'appelle les mycorhizes. Et la mycorhize, en fait, est un échange de solidarité entre les champignons et les arbres. Le champignon va renvoyer des minéraux, tandis que l'arbre va lui envoyer du glucide. Donc, il y a des formes de solidarité qu'on ne voit pas. Et c'est là le vivant. Le vivant, ce ne sont pas juste les oiseaux, quelques hérissons qui vont se mettre au pied de l'arbre, quelques taupes qui passent par-ci, par-là. C'est du ver de terre, c'est du colambol, c'est de la microbiologie. Donc quand on parle de la vie autour de l'arbre, c'est immense en fait. Mais on ne la voit pas.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant. D'avec ma femme, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là. Qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Je crois que ça a été quantifié, ça, les quantités, si on les pèse, de vie animale qu'il y a dans le sol, c'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé que la vie animale au-dessus des sols.
Alors j'ai entendu une petite, je crois que c'est les bourguignons qui parlaient de ça, spécialistes du sol et de la microbiologie. Ils parlaient de ce que pouvait contenir une cuillère à soupe. Quand on prend une cuillère à soupe de terre, il y a plus d'êtres vivants que d'être humain sur Terre dans une cuillère à soupe de terre. Donc voilà. Et ça, c'est encore une fois, j'insiste sur le côté invisible. Ça fait partie d'ailleurs du le petit slogan qu'on utilise dans l'IKEN, c'est rendre visible l'invisible. Et avec les arbres, on a la possibilité d'amener ce discours et cette vision-là. On ne peut pas voir, mais on peut prendre conscience. Et le mot conscience, là, il a toute son importance dans ce projet.
Et on peut ressentir aussi, Olivier, parce que la grande problématique de l'arbre, tu le disais, toi, tu as besoin des arbres pour te sentir bien. En fait, on a réussi à prouver plus ou moins, quand même, scientifiquement, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites, que les arbres nous apportent du bien-être.
Et puis là, les Japonais sont encore en pointe. Parce qu'ils connaissent les arbres et parce qu'ils ont compris cette relation de l'humain au milieu des arbres et en quoi est-ce que les arbres pouvaient régénérer. Ça s'appelle le Shinrin-yoku et ce sont des thérapies, des sylvothérapies, quelque chose comme ça.
Sylvothérapie.
De la sylvothérapie. À la base, ce que j'ai cru comprendre, je ne suis pas spécialiste, hein, mais c'est absolument un domaine sur lequel on doit faire d'autres études et faire quelques petites recherches, parce qu'à chaque fois qu'on va implanter une forêt, on pense qu'il y a une énergie de toute façon qui va alimenter, qui alimente tout le monde. Le principe de base, c'est que les arbres ont des échanges gazeux. Nous, êtres humains, au milieu de tout ça, on a la capacité de... c'est pas une capacité, on capte, sans vraiment le savoir, mais on capte ces échanges gazeux et ils ont un effet sur nous. Mais visuellement, rien que visuellement, a été prouvé que regarder de la verdure, du végétal, améliorer la tension artérielle, par exemple, diminuer le rythme cardiaque. Il y a des expériences géniales qui ont été faites en hôpital où deux secteurs de patients atteints de maladies relativement graves ont été divisés, avec une partie qui avait vu sur une forêt, sur un espace végétalisé, et l'autre sur des murs, sur du béton, et voilà. Et donc, en fait, la douleur diminue, le mal diminue, pour ceux qui sont dans la partie en contact avec visuellement avec des arbres, des plantes. Il n'y a pas que les arbres, hein. Quand on parle d'arbres, on parle de quatre strates, enfin, en tout cas sur les micro-forêts, c'est important de comprendre. Il y a les grands arbres, la canopée, il y a des arbres moyens, des petits arbres, des arbustes, et normalement on devrait pouvoir aller jusqu'aux herbes, jusqu'aux mousses, etc., etc., et on descend.
Alors, est-ce que c'est compliqué si on est intéressé pour reproduire ce projet ? Il y a quand même toute une méthode à appliquer. Hein. Ce n'est pas évident d'implanter une forêt comme ça dans un environnement urbain, sur un sol qui peut être contaminé. Donc il y a toute une méthode là, qui a été mise en place sur cette technique de la microforêt de Miyawaki.
Oui, mais on en revient un petit peu. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'appliquer un dogme, ce n'était pas forcément la bonne solution. Alors, il y a une méthode, on peut la trouver, elle est traduite, c'est très technique, vraiment très technique. Sur le concept, on va quand même se baser sur la grande base. Mais par exemple, quand il dit, je prends un exemple, hein, ça va être plus clair, on plante que du local. Alors, le mot local, déjà, il faut savoir ce que ça veut dire. À savoir que certaines plantes ne sont pas du tout locales. On prend le ginkgo, par exemple. Ce n'est pas une plante d'ici, mais elle est installée, elle se sent bien. Pourquoi ne pas l'utiliser ? On intègre des paramètres développement durable et réchauffement climatique. Et à partir de ce moment-là, eh bien, peut-être qu'on a intérêt à intégrer des plantes un petit peu plus exotiques, qui vont mieux résister à la sécheresse, par exemple. Donc, c'est un mélange... qui vient déborder un petit peu de la technologie Miyawaki pour aller vers quelque chose de plus sensible, un peu plus ressenti, et avec d'autres paramètres qui sont, à mon avis, importants à prendre en considération. Et il y a d'autres personnes qui ont développé d'autres techniques sur la notion de jardin-forêt, c'est des jardins nourriciers. Ce sont exactement les mêmes termes utilisés. Ce que dit Miyawaki et ce que disent les gens qui développent des jardins-forêts, c'est exactement la même base. Sauf que tout d'un coup, il y a d'autres paramètres de type permaculture qui rentrent en considération. Et qui dit permaculture, dit respect du sol. Donc est-ce qu'on creuse, comme le propose Miyawaki, jusqu'à 50 cm, 60, 70, et donc au passage on détruit potentiellement toute la vie qui existe déjà, ou au contraire on enlève juste les adventices, enfin les mauvaises herbes, à savoir que toutes les herbes ne sont pas mauvaises, loin de là, ça c'est une autre réflexion. Eh bien, on pense qu'en fonction des études de sol qu'on va faire, eh bien, si on trouve de la vie, on va essayer de la respecter au maximum. Et là, on sort encore une fois du dogme, de la méthode pure Miyawaki. Après, il y a d'autres possibilités. Là, je ne vais pas développer plus, mais aujourd'hui, on en est à ça. Il y a une méthode, elle est assez compliquée. La plantation en soi, c'est très simple. On a des petits arbres, on a 23 essences différentes, le mot diversité est extrêmement important, et on les plante de façon relativement aléatoire.
Mais là, par exemple, justement, sur ce projet ici, dans les Pyrénées-Atlantiques, à Pau, vous avez quand même sélectionné ces 23 essences par rapport à vos critères. Donc, il y a eu quand même un travail préparatoire. Oui. Il a fallu préparer aussi, récupérer peut-être des semences, préparer les plants. Comment vous y êtes pris ?
Alors, là, c'est la première. Elle s'est faite en urgence et ça aurait pas dû être le cas. Déjà, première chose. Non, parce qu'on nous a proposé le terrain, on était parti pour en faire une à l'automne prochain, et l'occasion se faisant, on a lancé tout ça. Après, il y a eu quelques petits problèmes, le terrain s'est déplacé deux ou trois fois, bon, je passe les détails. Cela dit, la sélection qu'on avait faite, c'est-à-dire en partant sur l'idée qu'on voulait implanter une forêt comestible, nourricière. C'est-à-dire toutes les essences qu'on a sélectionnées vont fournir une baie. Donc notre sélection... Déjà sur un ensemble on a une liste de 30-40 arbres qui pourraient correspondre à cette méthode. On a sélectionné tous ceux qui sont nourriciers. Mais nourriciers pas que pour l'humain, hein, qu'on se trompe pas, c'est essentiellement pour la biodiversité. Il y a des baies qui sont pas très bonnes, mais par contre les oiseaux en raffolent. On aura planté, par exemple, je donne quelques exemples de plantes, alors du sureau, du noisetier, des bouleaux, la sève se consomme, il faudra attendre un peu quelques années. On a planté du néflier, des alisiers, des érables, du chêne, le gland se consomme, à condition d'enlever le tanin, tout se consomme en fait, même les feuilles des arbres peuvent se consommer. Bien sûr, là on va attendre quelques années aussi avant d'aller grignoter les feuilles. Donc ça fait partie de la méthode. Comment on sélectionne ? On choisit le caractère de la forêt. Si on devait planter des arbres en bordure d'eau, on prendrait des essences qui aiment avoir les pieds dans l'eau. Donc des racines qui vont drainer et qui vont se plaire dans un milieu aquatique. En fonction de chaque type de forêt, de chaque projet, ça va nous permettre de réduire en fait la sélection d'arbres. Mais on reste quand même sur un principe de diversité. Ça, c'est le plus important. Donc pour revenir sur l'idée d'appliquer la méthode et comment on peut proposer le protocole à d'autres personnes pour qu'ils puissent faire la même chose, il faut quand même s'intéresser au minimum à cette méthode et à la comprendre. Essayer de capter tous les critères de ces arbres pour ne pas les combiner n'importe comment. L'acacia est un arbre génial, par exemple, mais on sait qu'il va tout coloniser. Un acacia planté, c'est une forêt d'acacia qui potentiellement va prendre le dessus sur les autres. Voilà, c'est toutes ces petites choses qu'il faut arriver à capter. Donc, ce n'est pas si simple, mais la plantation en elle-même, ce n'est pas très compliqué. Donc, c'est à la portée de tout le monde, mais il faut un petit peu d'études avant. Et je ne parle pas de l'étude de sol.
Donc, cette plantation, elle a été faite, mais vous avez eu une production en pépinière. J'ai vu sur votre site une serre participative.
Ah, on essaye. On pense que ouais, l'idéal... Donc là, je vais revenir sur le terme de local. Local, ce sont des plantes acclimatées. Qui sont adaptés. Et donc, on a fait une petite cueillette cette année. On a trouvé essentiellement de la châtaigne et du gland, pas grand-chose de plus, mais c'est pas grave, on en a trouvé 600. Donc, 600 qui ont été mis en pot sur le domaine de Serres, avec la participation de la maison du jardinier qui nous a prêté une table pour pouvoir mettre ces glands, ces châtaignes. Et l'idée, c'est d'amener les gens, les citoyens, à comprendre qu'ils peuvent eux-mêmes récolter, planter et avec ces projets d'arboretum venir réimplanter leurs jeunes pousses dans ces micro-forêts. Là, on l'a fait de façon un petit peu massive. On va attendre 2 ans avant d'avoir la taille suffisante pour pouvoir l'implanter dans une micro-forêt. La taille, c'est à peu près entre 50, 80, allez, entre 50 et 1 mètre, ça va. Au-delà, c'est trop grand. Donc on aimerait bien développer effectivement une serre participative pour que les gens puissent collecter, poser à un endroit, mais tout en sachant que chacun peut le faire chez soi. Donc l'idée, ça va être de reconnecter des citoyens entre eux autour de l'arbre pour leur donner les notions suffisantes pour pouvoir cueillir, planter, faire pousser, avec l'objectif de venir mettre dans une micro-forêt, si possible, en milieu urbain. À côté de chez eux, ça serait l'idéal.
D'accord. Alors la question ici que je n'ai pas posée, que je vais finir par poser, donc les terrains, ils appartiennent à qui et quelles garanties vous avez de planter des arbres qui font 50 cm, qu'ils atteignent leur taille adulte? Vous avez une garantie que ça va rester 30 ans comme ça, non construit, à Pau, en pleine ville?
Ah, le point faible. Là où ça fait mal. Mais c'est notre cheval de bataille pour cette année, ça. C'est le point crucial. Alors, première question, à qui appartient le terrain? C'est la ville qui le met à disposition. On n'est pas encore, nous, en capacité d'acheter des terrains. L'idée fait son chemin, mais franchement, on n'a pas les moyens, c'est trop cher. Mais ça viendra. La garantie, alors ça c'est vraiment... En fait, notre problématique aujourd'hui, c'est que quand on fait ce genre de projet-là, si on n'a pas cette garantie sur un minima de 20 ans, et encore normalement, certains, a priori, arrivent à l'avoir sur 50. On est incapable de dire que demain, un projet d'urbanisme ne va pas raser cette forêt. Donc on essaie d'amener petit à petit les politiques à comprendre que s'ils ont vocation à nous aider dans ce développement, à consolider, et s'ils sont en accord avec ce qu'on fait, en fait, la cohérence de leur discours ne s'exprimera que par leur capacité à figer cette forêt sur des années. Et là, du coup, on va vraiment créer des sanctuaires, des petits sanctuaires. Si on arrive à obtenir cet engagement des mairies sur 20, 30, 40, 50 ans, on sait que la biodiversité va se développer. Et on sait qu'au bout d'un certain nombre d'années, c'est long, hein, 50 ans, hein, ça sera en place. Ça sera en place, ça sera solide, parce que des racines solidaires, parce que des plantes qui seront relativement regroupées, une densité qui va faire que la biodiversité est protégée par cette densité, donc elle sera présente. Ça serait absurde de l'avoir détruite au bout de 2-3 ans. Tout ce qu'on met en place, si c'est détruit très rapidement, ça ne sert à rien. Donc si on n'a pas cet accord, effectivement, c'est à moitié réussi. Voilà. Il faut absolument qu'on atteigne cet objectif.
C'était l'ours et la carotte. écoutable sur Internet.